Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, c'est l'histoire d'un flic, et c'est l'histoire d'une chute, celle du commissaire Néret. Dès le début des années 80, ce policier mène une carrière sans faute, multipliant les arrestations spectaculaires dans le milieu lyonnais. Il est même l'image du policier à l'ancienne, qui s'appuie sur des indices, passe de longues heures à planquer dans des voitures et organise des filatures pour prendre les malfrats en flagrant délit. En 21 ans à la tête de l'anti-gang à Lyon, il dispose d'un palmarès impressionnant qui lui vaut la réputation de meilleur flic de sa génération et l'obtention de la Légion d'honneur en 2004. Mais en septembre 2011, le super flic tombe de son piédestal. Il est arrêté comme un vulgaire voyou. Et les accusations sont graves. Corruption, trafic de drogue, trafic d'influence. Michel Néret est alors décrit comme un ripoux, oui, de ce qu'on voit au cinéma. Alors, comment ce policier d'expérience, ce professionnel porté au nu, a-t-il pu franchir la ligne jaune? Notre invité aujourd'hui, Richard Chitli, journaliste à la rubrique judiciaire du journal Le Progrès, auteur du livre intitulé « Commissaire Néret, chute d'une star de l'anti-gang ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Héloïse Davio, coordination Christophe Barrère, réalisation Koy Nguyen.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Au sommaire de cette édition, un scandale qualifié de grande ampleur. Le numéro 2 de la police judiciaire lyonnaise est en garde à vue dans le cadre d'une affaire de corruption et de trafic de stupéfiants. Dans les milieux judiciaires de la ville, on parle de cataclysme.
Cette annonce du 29 septembre 2011 est un coup de tonnerre dans l'institution policière. Michel Néret, 55 ans, dont 30 de bons et loyaux services dans les rangs de la police, lui, la star de l'anti-gang, se retrouve derrière les barreaux. Pourtant, il y a quelques heures encore, il s'apprêtait à démarrer une journée normale, consacrée, comme toutes les autres, à traquer les truands.
Allez, en avant les gars,
Il est 6h du matin quand Michel Néret, encore endormi, entend frapper à sa porte. Il vit avec sa femme Nicole dans le petit hôtel de charme dont elle est propriétaire à côté de Vienne. Il est un peu tôt pour servir le café, pense Michel Néret. À peine la porte ouverte, 20 hommes en uniforme pénètrent dans la pièce en criant « Police ». Ils appartiennent à l'inspection générale des services. Les « bœufs carottes ». C'est ainsi qu'on les surnomme, bloque toutes les issues. Pour le super flic, la scène est surréaliste. D'ailleurs, l'un des hommes s'avance et lui dit, déférent, « Monsieur Néret, vous êtes en état d'arrestation. » Estomaqué, le commissaire demande pourquoi. « Bien, on sait ce que vous faites avec Gilles Bénichou. » Ah, mais qu'a bien pu faire Michel Néret avec ce Bénichou, petit escroc lyonnais, qui lui vaut une arrestation digne d'un grand voyou? Le commissaire l'ignore, mais l'IGS enquête sur lui depuis une saisie de drogue extraordinaire effectuée un an plus tôt.
111 kilos de cocaïne, une très belle prise pour la brigade des stupéfiants. Cet après-midi, les policiers ont convoqué la presse pour cette saisie très importante.
On est extrêmement satisfait, ça représente un travail considérable pour les policiers de la brigade des stupéfiants. Et le résultat est là, 111 kilos de cocaïne, de l'argent liquide, des objets de luxe, des vêtements. Et une enquête qui a débuté il y a plusieurs semaines avec la direction centrale de la police judiciaire.
110 kilos de cocaïne, une belle prise pour la brigade des stupes, qui n'hésite pas à convoquer les caméras de télé pour donner de l'écho à son exploit. Pourtant, derrière les sourires des policiers se cache une grande déception. Gilles Thépier, le chef du réseau, a réussi à prendre la fuite au volant d'une puissante berline. Les policiers ont également laissé filer un deuxième gros poisson qui était dans leur viseur, Yannick Dacheville, soupçonné d'être le financier de la petite entreprise de trafic de drogue. Pour remonter jusqu'à eux, ils les mettent ainsi que leurs proches sur écoute. Et c'est ainsi qu'ils font une découverte pour le moins surprenante. Le Le 16 février 2011, des enquêteurs de la brigade des stupes Paris interceptent une conversation entre Yannick Dacheville, alors en cavale, et un mystérieux interlocuteur. Ce dernier tente de le convaincre qu'il est en mesure de l'aider. Il parle de certaines connaissances, policiers, juges, avocats, puis mentionne plusieurs fois le nom d'un ami très bien placé et influent. Dans l'enthousiasme du moment, l'homme néglige de prendre certaines précautions. Et il évoque un certain Michel, qu'il appelle aussi Nérus. Ce serait un policier passé par l'anti-gang et directeur de Rhône-Alpes. Précise, la description laisse peu de place au doute et évoque immédiatement un nom aux enquêteurs, Michel Néret. Qui, dans la police, ne connaît pas le parcours de ce flic de légende? Alors, intrigués, les enquêteurs poursuivent leur surveillance. Et quelle n'est pas leur stupéfaction lorsque, le lendemain, ils comprennent que le mystérieux interlocuteur a envoyé par email à Dacheville sa fiche de recherche dans l'espace Schengen, un document très confidentiel de la police, réservé aux individus en cavale, moyennant rétribution bien sûr. Leur étonnement est encore plus grand lorsque, quelques heures plus tard, le personnage se gargarise de pouvoir donner des renseignements sur sa fiche de recherche Interpol. Bon allez, dépêche-toi de me faire gagner de l'argent, parce que tu n'as rien chez Interpol, d'accord? Balance l'inconnu, au bout du fil. Je crois que tu vas gagner beaucoup d'argent, lui répond Dacheville, le fuyard. Et cette fois, l'imprudent cite nommément Néret. Et voilà comment le commissaire se retrouve dans le collimateur de la police judiciaire, lui qui s'était fait un nom en réussissant des arrestations spectaculaires et en démantelant de gros réseaux de trafiquants de drogue, comme en ce mois de mai 2011.
Un véhicule de gros cylindrée, la drogue conditionnée dans des sacs de voyage, la technique est désormais connue des forces de police, le GoFast. Mais cette fois, la brigade de recherche et d'intervention les attendait à leur destination finale. Cela faisait près de 3 mois que les policiers surveillaient la planque d'un réseau de trafiquants dans le cadre d'une enquête préliminaire. Sur place, 2 individus de la bande sont interpellés.
Ces surveillances ont abouti dans la nuit de vendredi à samedi à la détection d'un convoi de véhicules automobiles, de véhicules de gros cylindrée, de retour des Pays-Bas, avec une interception dans une planque dans une commune de la banlieue lyonnaise, planque qui nous a permis de découvrir donc des quantités assez impressionnantes de produits stupéfiants.
La prise est exceptionnelle, en fait la plus grosse depuis l'an dernier où la police avait saisi 85 kilos d'héroïne.
Ah, les fameux GoFast, l'une des spécialités du commissaire Néret qui se délecte d'expliquer sa méthode face aux caméras de France 2 dans le reportage justement que vous venez d'entendre. En 30 ans de carrière, l'homme s'est construit une solide réputation de cador. Fils d'un mineur lorrain, Michel Néret, né en 1956 à Londres, en Meurthe-et-Moselle. Il grandit au milieu des cités minières de l'Est de la France, des lotissements d'immeubles gris et tristes. Son père le fait descendre dans la mine, avec son frère, Christian. Il faut que ses fils comprennent la dureté de sa condition de mineur, connaissent l'atmosphère sombre, poussiéreuse, l'odeur de la transpiration dans les galeries souterraines. Ainsi, espère-t-il, ces garçons poursuivront des études et se choisiront un tout autre horizon. Bien vu. Le message est passé, Christian sera médecin, Michel, policier. En 1979, ce dernier réussit le concours de l'École nationale supérieure de la police et intègre pour 2 ans la 31e promotion des commissaires de police à Saint-Cyr au Mont-d'Or. Deux ans plus tard, en mars 81, le voilà affecté à Lyon pour un premier stage à la police judiciaire dans le giron d'un enquêteur légendaire, Marcel Alliot. La brigade anti-gang pourchasse alors le gang dit des motards, un groupe de braqueurs en gros cylindrés, le gang des tractions avant version de roue si vous voulez. Michel Néret observe le travail de filature et de surveillance supervisé par le commissaire André Milnana et assiste surtout à son premier flag. Ce jour-là, 2 braqueurs sont interceptés par une voiture de la brigade après l'attaque d'une caisse d'épargne. Michel Néret est soufflé, oui, impressionné par les moyens exceptionnels de la BRI de Lyon et ses grosses voitures. Créée après les méfaits du célèbre gang des Lyonnais dans la première moitié des années 70, la BRI de la ville bénéficie d'un statut très particulier, d'où ses moyens hors normes. Dès lors, le jeune policier poursuit ses études avec un objectif, intégrer l'anti-gang lyonnais. À après un bref passage à la tête du groupe de répression des vols d'œuvres d'art à la SRPJ de Versailles, puis à la police judiciaire de Meaux, Néré décroche enfin le poste de ses rêves. Le 1er septembre 83, le commissaire débute dans ses fonctions d'adjoint au chef de la mairie de Lyon. Un an plus tard, il est nommé à la tête de l'anti-gang. À cette époque, la capitale des Gaules est aussi celle du hold-up. Au printemps 84, on ne compte pas moins de 2 braquages par semaine.
Près d'union entre la gare Perrache et la place Bellecour, la rue Victor Hugo est une agréable rue piétonne et par excellence l'une des grandes rues commerçantes de Lyon. C'est la rue des banques aussi. Et il est étonnant que personne autour de l'agence de la BNP n'ait entendu à midi un quart hier claquer les coups de feu qui ont tué le général Delfosse. Étonnant aussi que les deux criminels aient pu sortir de la banque 10 minutes plus tard, tranquillement, sans être inquiétés. L'agence de la BNP fait l'angle de la rue et de part et d'autre, aucun commerçant ne s'est rendu compte de rien. En face de la banque, une autre banque, là encore, personne, non personne, ne s'est rendu compte de quoi que ce soit.
Lorsque Michel Néret débarque à Lyon, les deux grands gangs de braqueurs historiques, les familles Nivois et Baccarazzi, sont en bout de course. Et ils laissent place à des truands plus jeunes, aux méthodes plus modernes, moins identifiées et moins prévisibles surtout. Quant à la BRI, elle ne se contente pas d'arrêter les malfaiteurs une fois le crime commis. Non, sa mission consiste à les identifier en amont et à les prendre la main dans le sac. Pour y parvenir, les enquêteurs s'appuient sur des informateurs, les fameux indics, dont Néret comprend très vite l'importance. À partir de leurs tuyaux, le commissaire et son équipe organisent filature, écoute, planque de jour et de nuit, jusqu'au moment du forfait. Et Néret ne rechigne pas aux heures d'attente, longues et ennuyeuses dans les voitures. Heures creuses, largement compensées par l'adrénaline que provoque l'intervention en flagrant délit. Et ces méthodes à l'ancienne font leurs preuves. Le tableau de chasse de Néret se remplit très vite. Arrestation des frères Lévy, serrage des braqueurs de la famille Récoquet, bijoutier spécialisé dans la confection de médailles religieuses en or, arrestation de Patrick Robert et de son gang des Grandes Oreilles, ou encore de Roland Red et toute sa clique. Sous les ordres du commissaire Néret, la BRI de Lyon met à l'ombre certains des plus gros voleurs à main armée de la région. À son palmarès également, la localisation du terroriste Khaled Kelkal, membre du GIA et responsable de la vague d'attentats de l'été 95 en France. Et puis, l'interpellation de plusieurs membres de l'ETA en 2002. Un an plus tard, il réussit une arrestation spectaculaire qui lui vaut une reconnaissance nationale. Nous sommes à Luynes, près d'Aix-en-Provence, le 14 avril 2003. Dans l'après-midi, un hélicoptère survole la maison d'arrêt de la ville. Un homme descend le long d'une corde et cisaille le grillage de la cour des détenus particulièrement signalé. Puis, 3 prisonniers grimpent à la corde. En 4 minutes seulement, Franck Perletto, Eric Alboreo et Michel Valero, 3 grosses pointures du braquage et du trafic de stupes, réussissent une évasion spectaculaire avec une facilité déconcertante. Un vrai pied de nez à l'autorité de l'État. D'autant qu'il s'agit de la 3e opération en moins de 6 semaines dans les prisons françaises. 3 semaines plus tard, le 8 mai, la police suisse dit avoir repéré un groupe soupçonné de préparer un braquage à bord d'une Volkswagen grise en route vers la France. Leur description correspond à celle des évadés de Luynes. Alors, l'équipe du commissaire Néret prend en main la filature des suspects à partir de la Haute-Savoie. Seuls 2 hommes sont à bord. Mais à la tête de la PJ parisienne, on presse Néret de les interpeller au plus vite. Le commissaire, lui, préfère temporiser. Il veut l'équipe au grand complet, alors qu'importe les pressions du gouvernement. Une stratégie payante. Le lendemain matin à 6h, les évadés de Luynes sont interpellés dans un gîte de la Drôme. La belle prise de Michel Néret fait la une des journaux.
Dans cette auberge, les 4 malfaiteurs en cavale passaient pour de parfaits touristes. Quand la police est intervenue à l'aube, la surprise fut totale, y compris pour les 4 hommes encore endormis. Les enquêteurs étaient sur leurs traces depuis hier. Repérés à Genève, où ils préparaient un braquage, Michel Valero est d'abord pris en filature par des policiers suisses. Une fois la frontière franchie, les Français prennent le relais. Ils suivent une passate qui les mène jusqu'à la planque des malfaiteurs.
Nous étions persuadés que dans cette voiture se trouvait Valero et quelqu'un d'autre. On n'avait pas pu identifier ce quelqu'un. On savait que ce n'était pas Paillé, puisque les Suisses... le connaissait, on ne savait pas qui c'était. Nous avons décidé d'interpeller Valero au matin, puisque les 21h étaient passées. et nous pensions que Valero pouvait être avec Paillet Alboreo, mais on ne s'attendait pas à la présence de Franck Perletto. Lui non plus s'attendait pas à la nôtre d'ailleurs. Hein.
Cette arrestation est capitale pour le gouvernement et son ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui ont fait de la sécurité leur cheval de bataille. Pour Michel Néret, c'est l'heure de gloire. Le ministre Sarkozy l'appelle en personne pour le féliciter. À la collègue qui lui tend le téléphone, Néret, persuadé qu'on lui fait une blague, dit « Dites-lui d'arrêter ses conneries ». Pour ce fait d'armes, pas la connerie, l'arrestation. Il est récompensé de la Légion d'honneur quelques mois plus tard. Michel Néret est au sommet d'une carrière entièrement construite à Lyon, qu'il n'a plus quitté depuis 20 ans. Mais pour ses galons de commissaire divisionnaire, il doit accepter de s'expatrier, c'est la règle. Une nouvelle mesure impose en effet un changement de poste tous les 4 ans pour les commissaires de police. Cette même année, Néret est nommé à Nice. Un déracinement très déstabilisant pour le superflic. À Nice, Michel Néret prend donc ses nouvelles fonctions de commissaire divisionnaire. finit le terrain, les planques, les filatures. Le voilà contraint à un travail de bureau, oui, où il partage son temps entre l'administratif et les réunions ennuyeuses. Et puis c'est un poste où il faut assumer des fonctions de représentation. Et pourtant, à Nice, Michel Néret se sent seul, isolé. Sa femme, Nicole, qui gère son hôtel, la Gabetière, près de Vienne, ne le suit pas sur la Côte d'Azur. Alors, peut-être se laisse-t-il aller à quelques infidélités ? C'est en tout cas ce que sa femme soupçonne. La nouvelle attitude du commissaire Néret met en danger son couple qui bat sérieusement de l'aile. Toujours est-il que lorsqu'il retourne à Lyon en 2007 pour prendre les fonctions de numéro 2 de la PJ locale, il n'est plus tout à fait le même. Selon certains proches collaborateurs de l'époque, qui témoignent dans Complément d'enquête sur France 2 en 2011.
Il avait pris une distance, avec tous quoi, il avait pris une distance. Ce que c'était, je n'en savais rien. Mais moi, j'ai vu que nos contacts étaient légèrement différents. Bon, toujours l'amitié, toujours le respect. Mais il y avait quelque chose qui m'a un peu gêné, je dois le reconnaître.
Entre le Néret que j'ai connu avant 2004 et le Néret de retour de Nice, eh ben, on en a un qui fait plus la fête que l'autre.
Numéro 2 de la police judiciaire de Lyon. Le nouveau poste de Néret est très prestigieux. Et s'il retrouve sa ville, ses traboules et ses bons vieux tontons, ses indiques, le commissaire ne retrouve pas le chemin du terrain qu'il aimait tant. Il cherche alors d'autres moyens de mettre les mains dans le cambouis. Comme à Nice, il sort le soir, une manière de joindre l'utile à l'agréable. On l'aperçoit dans de hauts lieux de la nuit lyonnaise, le Lips, l'Apéric-Club ou encore le comptoir de la Bourse. Ces bars et boîtes de nuit brassent une faune composée de people lyonnais, de notables de la ville, mais aussi de dealers et de figures du milieu. Il n'y a qu'à piocher, en quelque sorte. Un moyen de travailler ses sources, donc. Difficile à dire. Quoi qu'il en soit, Michel Néret devient une personnalité dans la ville. D'ailleurs, en 2010, lorsque Olivier Marchal vient tourner son film « Le gang des Lyonnais », Néret sert de conseiller technique. En amont du tournage, le commissaire fait donc visiter la ville au cinéaste. Il lui montre les établissements fréquentés par le milieu et lui présente des proches du gang des Lyonnais. Le commissaire passe régulièrement sur le plateau et sort avec le réalisateur. Il n'en fallait pas non plus pour alimenter l'image de star du policier. D'ailleurs, grand, plutôt mince, les cheveux bruns, un peu longs, avec une mèche sur le côté, il est surnommé le Bébel de la PJ. Et cela ne peut que plaire aux médias qui lui tendent de plus en plus souvent leur micro, d'autant qu'à la fin des années 2000, la hiérarchie voit d'un très bon œil la communication autour des exploits de la police. Comme en ce 13 mars 2010.
Le commissaire Michel Néret, numéro 2 de la PJ de Lyon. À l'époque, comme ici en 2009, ce super flic n'hésite pas à ouvrir ses portes à la presse et à répondre aux interviews.
Lyon a toujours été considéré au niveau national comme une plaque tournante. On a sur la région lyonnaise l'implantation de réseaux structurés très lourds hein, qui bénéficient en plus d'implantations dans le sud de l'Espagne très importantes, historiquement très importantes.
Depuis le début des années 90, le visage du grand banditisme lyonnais a changé. Les braqueurs ont laissé place aux trafiquants de drogue. Michel Néret et ses hommes s'illustrent alors par des saisies exceptionnelles de plusieurs centaines de kilos d'herbe ou de poudre. Mais si les clients changent, la méthode reste la même. Michel Néret s'appuie toujours sur des indiques. Et il n'hésite pas, de temps à autre, à les remercier en leur redistribuant une partie des saisies de drogue. Une pratique courante dans la police pendant des années. Sauf que depuis 2004, les règles ont changé. Cette année-là, en effet, la loi Perben se donne pour mission de faire le ménage dans les vieilles pratiques. Elle met en place un listing dans lequel doivent être inscrits les indics et prévoit une grille de rémunération pour les informations qu'ils fournissent. Les récompenses vont jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais tous les indics ne voient pas d'un très bon œil leur inscription dans un fichier. Et comme on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, Michel Néret a du mal à changer ses habitudes. Chasseur dans l'âme, il ne peut s'empêcher de renifler de nouveaux indics avec l'espoir d'infiltrer de nouveaux réseaux. Comme avant, quoi. C'est ainsi qu'il rencontre en 2007 un escroc lyonnais, Albert Bénichou. L'homme lui file quelques tuyaux avant de disparaître dans la nature. Mais le commissaire Néret reste en contact avec son frère, Gilles. Et ce dernier n'est pas un enfant de cœur. Officiellement, il se présente comme gérant de société ou marchand de biens. mais il a été condamné 9 fois pour fraude fiscale, transport de fausses monnaies, extorsion. Bénichou a une très bonne connaissance du milieu et il parle en arrêt de fraude à la TVA et de contrats en préparation liés à la délinquance financière. Tout cela intrigue le super flic. Gilles Bénichou a de la tchatche et du charisme. Alors, entre le haut gradé et le petit voyou, se noue une relation amicale étonnante. À partir de 2009, ils prennent régulièrement un café ensemble, à la vue de tous. Et lorsque Olivier Marchal tourne son film, Le Gang des Lyonnais, le petit malfrat fait part au commissaire de son rêve d'être acteur. Néret lui obtient alors un rôle de figurant. Et pour le remercier, Gilles Bénichou offre au commissaire, quelques mois plus tard, un joli cadeau, une montre Cartier d'une valeur de 30 000 euros. Bénichou présente même sa famille au commissaire et l'invite à célébrer Shabbat chez lui avec les siens. Une ambiance réconfortante pour Michel Néret, qui n'a plus de famille depuis longtemps. Ses deux parents, en effet, ont été emportés par des cancers, son frère aîné par un accident de voiture. Et voici ce qu'il dit au micro de Léa Salamé sur France Inter en 2016.
Il y a deux choses dans ce dossier. Il y a déjà une première relation qui est une relation très amicale avec un des acteurs de ce dossier, hein, Gilles Bénichou, qui m'a ensuite présenté son cousin, qui était Stéphane Azray, qui est lui une personnalité beaucoup plus importante et intéressante pour moi dans mon optique policière, puisque c'était quelqu'un qui était plus ou moins impliqué dans les escroqueries et la taxe carbone. Et donc c'est cette proximité-là que j'ai essayé de développer avec Stéphane Azray en espérant à terme obtenir un certain nombre de confidence de sa part.
Hein. Vous en avez eu ?
Alors, encore une fois, on commençait à entretenir une relation suivie, mais 6 mois, comme je l'ai expliqué devant les tribunaux, c'est une période assez courte pour se permettre de dire ma relation avec cette personne, c'est une relation qui va se construire sur une relation d'informateur policier avec des résultats efficaces.
Cette rencontre avec Stéphane Azra a lieu en mars 2011. Gilles Bénichou organise alors l'anniversaire de sa mère dans un grand hôtel lyonnais. Le champagne coule à flot et tout le clan est réuni. Hasard du calendrier, c'est à cette époque que Gilles Bénichou est mis sur écoute après la saisie de drogue à Neuilly. Les enquêteurs ne perdent donc pas une miette de la suite des événements. Manque de chance, c'est aussi à partir de ce moment-là que le commissaire commence à sérieusement déraper. Au milieu de cette fameuse réunion de famille, Michel Néret, qui ne craint pas le mélange des genres, voit en Stéphane Azra la possibilité de mettre son nez dans le réseau lyonnais de la fraude à la taxe carbone. En d'autres termes, une nouvelle forme de grand banditisme s'ouvre à lui comme un nouveau territoire à investir en tant que policier. La délinquance en col blanc, des braquages sans armes, ni cagoule, ni sang versé, mais aux gains faramineux. À l'époque, Michel Néret ne connaît rien à cette délinquance-là, mais la perspective de se jeter dans l'inconnu ne lui déplaît pas. Le neveu de Bénichou, lui, mène une vie de golden boy sur la Côte d'Azur. Officiellement, il gère des sociétés, mais comme son oncle, il a quelques ennuis avec la justice. En 2008, une plainte pour fraude fiscale et une instruction judiciaire contre X pour abus de biens sociaux sont lancées contre lui. Mais le commissaire ne se méfie pas plus que ça. Au contraire. Il accepte de plus en plus de cadeaux de la part de son ami Gilles Bénichou. Outre la montre, des vêtements, des nuits d'hôtel, parfois un peu d'argent liquide, lorsqu'il descend à Cannes où sa femme a hérité d'un appartement, il se laisse très facilement convaincre d'emprunter des voitures de luxe, celles de Stéphane Azra, des Porsche et autres Ferrari. Et même si elle profite en partie des avantages de son mari, Nicole Néret, elle, voit d'un très mauvais œil la nouvelle attitude de son mari. C'est ce que les enquêteurs découvrent, en tout cas, au fil des écoutes téléphoniques.
C'est pas du tout le mec que j'ai rencontré. Moi, j'ai été avec un voyou. J'en avais marre des voyous. Je voulais un mec sain. Et maintenant, il est plus voyou que les autres. Mais arrêtez, arrêtez. Il est obnubilé par le fric. Il n'y a que le fric, le fric, le fric, le fric.
Bien au fait des problèmes de couple de Néret, Gilles Bénichou propose au commissaire de les inviter, lui et sa femme, pour un petit séjour à Marrakech en avril 2011. Il leur réserve une chambre à l'hôtel Les Jardins de la Koutoubia. Encore une attention que le commissaire ne repousse pas, bien au contraire. L'occasion expliquera-t-il en garde à vue de renouer avec sa femme et de glaner au passage quelques informations. Oui, car les Néret ne partent pas seuls. Gilles Bénichou et sa femme sont aussi de la partie, ainsi qu'une autre figure lyonnaise peu recommandable, Michel Zaragoza, un trafiquant de voitures. Le problème, c'est que dans le même temps, à la demande de son ami Bénichou, Michel Néret fournit des informations sur des fiches de recherche Interpol concernant des voyous en fuite. Yannick Dacheville, le trafiquant de drogue de la saisine Neuilly, mais aussi l'escroc Gilbert Chicly ou Cyril Lastruc impliqué dans la fraude à la taxe carbone. Michel Néret l'ignore, mais les deux cousins ont monté tout un business autour du trafic de ces fiches. Le numéro 2 de la PJ lyonnaise n'hésite pas non plus à intervenir auprès d'un magistrat en faveur de Stéphane Alzera pour lui éviter des ennuis. Bénichou et Alzera semblent ainsi avoir trouvé la faille du commissaire et ils en profitent jusqu'au bout. Le dossier de l'inspection générale des services est de plus en plus fourni et elle n'est pas au bout de ses surprises, cette inspection. Les enquêteurs découvrent en effet que fin juin, Gilles Bénichou a fait ouvrir plusieurs comptes en Suisse, dont l'un a pour titulaire Nicole Néret. L'idée est d'y constituer un petit pécule pour leur retraite. Michel, bien sûr, est dans la confidence. Mais cette fois, l'IGS a suffisamment de preuves. Et en septembre, l'étau se resserre. L'ordre d'arrêter le numéro 2 de la PJ lyonnaise est lancé le 29. Après 48 heures de garde à vue, le commissaire est mis en examen pour 8 chefs d'accusation, dont trafic de drogue et corruption. Il rejoint alors le quartier VIP de la Santé. Une expérience pour le moins déroutante, comme il explique sur France 3 en 2013.
Il est 23h30, je passe à la fouille, je me change, voilà, et puis je rentre dans ma cellule. Là, j'entends des cris, des insultes de mon nom qui ont duré toute la nuit. Hein. Et toute la nuit, j'ai eu droit à toutes les demi-heures les gardiens de prison qui venaient allumer la lumière de la cellule pour voir si j'étais pas en train de mettre fin à mes jours. Quoi. Donc ça a été pendant 2-3 jours un régime extrêmement dur. Quoi. Mais par moments, j'ai eu des grosses périodes d'angoisse, notamment la nuit. Quoi. Donc après, je me prenais des anxiolytiques qui m'étaient administrés. Quoi.
Michel Néret passe 8 mois derrière les barreaux. Son procès s'ouvre le 2 mai 2016 au tribunal correctionnel de Paris. Face au juge, il reconnaît s'être perdu et avoir commis des erreurs, tout en niant les accusations de corruption et de trafic de drogue. Monsieur Néret, vous sembliez avoir perdu toute notion de toute limite légale et adopté un mode de fonctionnement où la fin justifie les moyens, déclare le président du tribunal lors du rendu du jugement. In fine, c'est la méthode Néret qui est jugée au cours de ce procès, sa gestion libre des informateurs et sa propension à ne pas hésiter à violer la loi pour obtenir des résultats selon les mots des procureurs. Au final, l'ex-superflic déchu est condamné à 2 ans et demi de prison pour trafic d'influence et corruption, couvert par la préventive. Et c'est ainsi que celui qui était devenu en 30 ans de carrière une légende de la police sort par la petite porte.
Je sais exactement les faits tels qu'ils ont été reproduits par le président du tribunal. Hein, donc, je ne les conteste pas. Malheureusement, voilà, c'est la fin d'une dure épreuve qui a marqué ma vie pendant 5 ans. Maintenant, je pense que je vais pouvoir revivre une vie différente. J'ai des regrets sur les 6 derniers mois de ma vie, évidemment. Rétrospectivement, j'en ai des regrets. Mais sur les 35 ans, ma vie professionnelle, je l'ai faite avec une seule passion et l'envie des résultats. Et sans flagornerie, je pense qu'on a eu avec mes équipes des résultats extrêmement forts. Et c'est de cela dont je me souviendrai pour ma mémoire policière.
Duh.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire du commissaire Néret. Notre invité, Richard Chitli. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à la rubrique judiciaire du journal Le Progrès, et correspondant du Monde aussi. Auteur surtout du livre Commissaire Néret, chute d'une star de l'anti-gang aux éditions Talendier. Et vous venez de publier une nouvelle enquête intitulée La guerre des stupes sur une autre affaire, celle du commissaire François Thierry, dont l'histoire présente quelques similitudes avec celle de Néret. On en reparlera tout à l'heure. D'abord, première question. Que fait Michel Néret aujourd'hui? Que devient-il?
Ben, il est à la retraite. Il n'a pas perdu ses droits à la retraite malgré l'affaire que vous avez exposée. Donc il est chez lui et il continue de purger en réalité la peine prononcée par le tribunal puis confirmée par la cour d'appel de Paris. Et il vient de voir la pose d'un bracelet électronique en réalité qu'il va garder plusieurs mois pour purger une peine de prison ferme. Voilà.
Est-ce qu'on sait ce qu'il pense aujourd'hui de tout ça? Comment il le vit? Peut-être avez-vous encore quelques contacts?
Oui, quelques contacts, quelques retours de ses proches. Je pense que dans l'interview que vous avez diffusée tout à l'heure, on a un petit peu la réponse. C'est quelqu'un qui est très lucide sur sa carrière et sur la fin de sa carrière, et il a conscience d'avoir dérapé personnellement. Donc lui, son souci, c'est que ses fautes qui se résument sur quelques mois, hein, comme vous l'avez montré, c'est vraiment à la toute fin de sa carrière où il a été déstabilisé, que tout va s'effondrer. Mais il voudrait pas que ça occulte 30 ans de police et d'excellence.
Eh oui, mais bien sûr, parce que le portrait qu'on peut en dresser comme ça pourra apparaître comme celui du pire des ripoux, et c'est pas vrai, puisque vous venez de le rappeler. Il n'a dérapé, sérieusement, certes, mais qu'à la fin de sa carrière. Qu'en est-il vraiment parmi toutes ces accusations, lesquelles tiennent, lesquelles ne tiennent pas?
Bah ça, c'est les juges qui l'ont dit.
Oui, c'est pour ça qu'on peut le redire, justement.
Oui, il a été condamné. Il y a deux volets dans l'affaire Néret. Il a d'abord été condamné pour corruption, hein, c'est-à-dire le fait d'avoir donné des renseignements à des voyous, à des gens en cavale, en échange d'avantages, de cadeaux, de voitures de luxe, de séjours. Donc ça, c'est je dirais, l'aspect principal de l'affaire Néret, la plus douloureuse pour lui, parce que c'est vraiment la chute d'un homme. Et c'est le fait qu'un policier ait franchi la ligne jaune, comme vous disiez. Et le deuxième volet de l'affaire, c'est le côté relation avec les informateurs, ses rétributions par des... Ça, il assume. C'est la méthode Néret, la méthode qu'il a exploitée pendant plus de 20 ans à la brigade anti-gang et qui a fait ses preuves. Voilà.
Ce qui est étonnant quand même, là on revient au fait, c'est que Néret est arrêté comme un voyou. C'est étonnant parce qu'on aurait pu imaginer qu'en interne, hein, au sein de la police, l'affaire se règle un peu plus discrètement. Pourquoi les choses se sont-elles passées comme ça?
parce que c'est ce que j'explique dans mon livre. Il y a une composante qu'il faut bien comprendre, mais qui n'apparaît pas au grand public toujours. Il y a dans les coulisses de la police, il se passe beaucoup de choses, parce que dans la police, il y a des lieux de pouvoir, et comme dans tout lieu de pouvoir, il y a des concurrences entre des personnalités. Et concernant Néret, il y a une très forte concurrence entre la police judiciaire de région, la DCPJ, les DIPJ, et la police judiciaire parisienne. Et les premiers qui entendent la fameuse écoute que vous avez rappelée, c'est la brigade des stupéfiants de Paris. Et lorsqu'elle entend le nom du commissaire, eh bien les Parisiens n'ont aucun état d'âme à appuyer sur le bouton et à régler le sort de ce commissaire de province qui commence à briller, qui est décrit comme le meilleur flic de France. Alors évidemment, ils n'ont aucun état d'âme à régler son sort en réalité.
Que c'est beau, la solidarité professionnelle. Ah oui. Michel Néret raconte qu'il y a un moment où quelqu'un lui a dit de faire attention, qu'il était mis sous écoute. Pourtant, ça n'a pas eu l'air de le perturber plus que ça. Est-ce qu'il y a eu chez Néret, comme chez certains hommes politiques qui dérapent, un sentiment d'impunité et surtout le sentiment d'être intouchable?
Oui, je pense vraiment un sentiment de toute puissance. Je vous parlais de pouvoir tout à l'heure, et c'est vrai que Michel Néret, quand il revient à Lyon comme directeur adjoint de la police judiciaire, c'est une personnalité lyonnaise forte qui devient médiatisée. Il y prend goût d'ailleurs, et c'est un homme de pouvoir, et il pense pas qu'une enquête peut le viser sans qu'il soit au courant en réalité. Et pendant des mois, il y a cette situation quand même incroyable. Il est sur écoute de l'IGS, les plus hauts responsables de la police judiciaire sont au courant et ne lui disent rien, et il va tomber comme ça dans les filets de ses propres collègues.
Alors, parlons de la méthode des indics. Elle est vieille comme le monde, aussi vieille que la police. Hein, ça remonte à très 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 loin, cette méthode-là. C'est
toujours,
normal.
Hein.
Il n'y a pas de police sans indics, de toute façon. Mais c'est vrai qu'il y a une façon de s'en servir de ces indics. On a l'impression que Michel Néret, qui en avait fait le socle de son action professionnelle, a passé la ligne jaune aussi dans ses rapports avec les indics. Parce qu'on peut avoir des rapports de proximité pour avoir des infos, ça se comprend. Mais lui, ça va très loin quand même avec ce Bénichou, là, ça devient des amis, en famille, ensemble. Là aussi, il passe la ligne jaune dans cette pratique de l'indic.
La relation entre le policier et l'informateur, il le dit d'ailleurs dans les documents que vous avez diffusés, c'est des relations qui s'inscrivent dans la durée et qui sont des relations humaines. Alors c'est pas du tout la police scientifique avec des procédés, c'est pas une science exacte, quoi, pour résumer. Et ces relations-là, elles sont éminemment dangereuses, parce que pour avoir des bons tuyaux, il faut avoir des relations avec des gens qui sont dans le milieu, qui ont une vue directe sur ce qui se passe. Et c'est vrai que Néret, pendant 20 ans, il a été un des premiers à la BRI de Lyon à détecter les trafics de drogue, les go-fast à grande échelle dont on parle beaucoup aujourd'hui. Ça a été un des premiers grâce à ses informateurs. Et c'est vrai que la relation avec les informateurs, il a toujours eu l'habitude de la cultiver, sauf que dans cette affaire-là, il a affaire à des escrocs dans le domaine financier, comme vous l'avez rappelé. Et là, les codes ne sont pas du tout les mêmes. Ce sont pas des voyous, ce sont pas des braqueurs, ce sont pas des trafiquants, ce sont des gens extrêmement malins qui, comme tout escroc, arrive à détecter les faiblesses de son interlocuteur. Et je pense que dans cette affaire, c'est ce qui s'est passé. Ce sont des informateurs qui ont repéré les faiblesses du commissaire et qui en ont profité.
Il a été dépassé par l'outil dont il pensait se servir, et se servir de façon très efficace.
Hein. À un moment, à la fin de sa carrière aussi, hein, où c'est la dernière ligne droite, où il n'a plus forcément les réflexes, où il devient un petit peu people, comme vous l'avez raconté, cet environnement du film d'Olivier Marchal. Il perd un petit peu ses réflexes de base aussi, je pense.
Ben justement, puisque vous parlez du film d'Olivier Marchal, un film de gang des Lyonnais, le réalisateur a pris la défense immédiatement de Néret lorsque l'affaire a éclaté. On a raconté dans le récit comment Néret s'est fondu dans cet espace cinéma. Ça lui plaisait énormément. Et on va écouter justement ce qu'en pense Olivier Marchal. Il s'exprime dans l'archive que nous allons entendre lors d'une conférence de presse du 4 octobre 2010.
Ce mec est un mec bien. Voilà. Et c'est un flic aimé de tous les flics de France, de tous les flics lyonnais. Et rares sont les flics qui font l'unanimité comme lui. S'il a juste traficouillé, on va dire, et j'emploie bien le terme entre guillemets, c'est-à-dire s'il a écarté de la cam pour pouvoir rétribuer ses indics, c'est là où je dis que c'est un flic à l'ancienne. Ce sont des méthodes que nous employons, nous tous. Ça veut dire que donc dans les années 90, on aurait tous dû tomber, quoi. C'est-à-dire que dans chaque tiroir de nos bureaux, on avait des armes, on avait de la cam.
Voilà, c'est clair à quel point Olivier Marchal défend Néré, et on sent l'admiration aussi.
Oui, et puis il défend une époque.
C'est ça, oui. Les indiques, oui, absolument.
Les indiques, les informateurs, la cam dans le tiroir qu'on pouvait donner. Ça, c'est toute une époque. Et c'est vrai que Michel Néré a vécu sans se rendre compte que l'époque changeait. Et vous l'avez rappelé, avec l'inscription d'informateurs dans un fichier spécifique, avec des règles et des pratiques qui n'étaient plus tout à fait admises. Et le système policier profitait de Néré parce qu'il avait des résultats. Et du coup, moi, je pense que c'est quand même un policier qui s'est retrouvé dans une certaine solitude aussi. C'est une composante de cette affaire. Tant que les affaires marchaient bien, tant qu'il avait des résultats, tout se passait bien. Et à partir du moment où il y a un grain de sable, eh bien, il n'y a plus personne. Il y a une certaine hypocrisie aussi du système.
Oui, et qui passe aussi par l'IGS, l'inspection des polices, parce que j'imagine que les méthodes de l'IGS, parfois, peuvent être sujet à caution aussi.
Ça, c'est possible, mais enfin bon, ça, c'est un service qui est chargé d'enquêter sur les policiers, donc il faut qu'on rentre dans le radar de l'IGS, ça devient difficile.
Oui, mais quand on parlait d'hypocrisie, par exemple.
Oui, bien sûr, d'hypocrisie. D'ailleurs, dans l'autre affaire que je raconte dans la guerre des stupes, c'est exactement les mêmes paramètres.
Alors justement, on va le faire. Écoutez, on va écouter de nouvelles archives. C'est un extrait du journal de France Inter du 25 août 2017. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai coupé.
France Inter 8h05, quel est le comble pour un ancien chef de l'office chargé de la lutte anti-drogue ?
Bien être mis en examen pour complicité de trafic de stupéfiants. C'est ce qui vient d'arriver tôt ce matin au commissaire François Thierry, après 10 heures d'interrogatoire par les juges d'instruction. Il est aujourd'hui numéro 3 de la sous-direction antiterroriste de la PJ. Il a été laissé libre. François Thierry est soupçonné d'avoir favorisé l'importation de plusieurs dizaines de tonnes de drogue sur le territoire pour faire tomber des réseaux criminels et obtenir des saisies spectaculaires. Des accusations révoltantes, selon l'avocat de François Thierry, maître Francis Spinner.
Aujourd'hui, les trafiquants de drogue peuvent se réjouir parce qu'on vient de condamner des méthodes avec une formidable hypocrisie. Ce qui est certain, c'est que c'est un coup d'arrêt qui est donné à la lutte contre le trafic de stupéfiants.
Alors, vous avez écrit, Richard Chitli, un livre justement sur cette histoire de François Thierry, le flic et l'addict, enquête sur un scandale d'État. Pourquoi êtes-vous intéressé à cette affaire-là? Qu'est-ce qu'elle a d'emblématique ou exemplaire?
C'est la suite de l'affaire Néré. C'est-à-dire, on prend les mêmes ingrédients et l'histoire continue. On a un grand flic qui est unanimement respecté pour ses résultats, le commissaire Thierry à la chef de l'office central des stupes, qui obtient des résultats, qu'on laisse faire et qui va peu à peu s'isoler dans ses méthodes. Et à un moment donné, tout va exploser parce qu'on va découvrir une forte quantité de cannabis qui est importée par un de ses informateurs. C'est en tout cas ce que tend à démontrer un dossier qui est encore en cours. Voilà. Et à partir de là, toutes les méthodes vont exploser et on va lui reprocher, eh bien, d'avoir laissé son informateur un peu hors contrôle et d'avoir perdu le contrôle de la situation. Dans l'affaire Néré, c'est un peu le même parallèle. Alors, à la différence de l'affaire Néré, on n'a pas le volet corruption. C'est-à-dire qu'on peut pas soupçonner à ce stade François Thierry d'avoir profité personnellement de la situation. Mais en revanche, on a les mêmes ingrédients. Pourquoi ? Parce que le cœur nucléaire de la police judiciaire, ce sont les informations. Et pour avoir des informations, ça passe par des relations avec des informateurs. Et ça, c'est une zone à risque. C'est depuis le début de la police, c'est comme ça. Et ça sera toujours comme ça. Le souci en France, dans la lutte anti-drogue, et c'est un peu la thèse de mon livre, c'est qu'on ne se donne pas les moyens et on ne veut pas voir les choses en face. D'ailleurs, l'importation de drogue en France, c'est des quantités industrielles qui supposeraient des méthodes affirmées, assumées surtout, et des relations avec les informateurs qui soient vraiment développées. Mais comme c'est quelque chose qui est tendancieux, qui n'est pas forcément réglementé, qu'on ne peut pas réglementer, eh bien on ne veut pas voir cette réalité-là et on laisse faire des choses, et quand les choses se passe mal, eh bien, il y a des policiers qui sont emportés par la tourmente.
Et qu'est-ce qu'il a subi, François Thierry, tout au long de cette histoire ? Quelles ont été les étapes ?
Ah ben, c'est comme Néret, c'est que sa carrière a explosé. Il est mis en examen pour trafic, pour complicité de trafic de stupéfiants, donc sa carrière est vraiment ruinée. Il attend la suite du dossier qui sera évoqué, qui a été dépaysé à Bordeaux au mois de juin. Il va y avoir une décision importante sur la validité du dossier et il risque de passer en correctionnel pour trafic de stup. Voilà sa situation. Donc vous imaginez. Et là, c'est pareil. C'était une icône, François Thiéry, comme Néret dans son registre, c'était vraiment un grand nom de la police judiciaire française. Et bien, du jour au lendemain, c'est quelqu'un qui va tomber de son piédestal et ses soutiens se détournent. Et les magistrats qui aussi étaient au courant tout de même des méthodes, eh bien, se sont détournés de lui et l'ont laissé dans cette situation. Donc l'affaire Thiéry, c'est un peu le remake de l'affaire Néret dans le volet informateur et stupéfiant. Si vous voulez.
Alors justement, voilà, on a deux affaires importantes qui doivent encourager la police à peut-être réfléchir sur ses méthodes. On le redit, il n'y a pas de police sans indique. Donc j'imagine qu'il n'y a aucun projet qui vise à interdire l'emploi d'indicateurs. On est d'accord.
Au contraire,
mais quelle réflexion on en a tiré dans la police, au ministère de l'Intérieur? Comment on statue sur cette question des indiques?
Alors, il y a des tentatives un petit peu d'essayer de réglementer les choses. Vous avez parlé du BCS, du Bureau Central des Sources, avec la loi Perben de 2004. Mmh. On a essayé un petit peu de mettre de l'ordre, mais vous voyez bien que ficher des informateurs, vous imaginez que les voyous sont pas très partants sur la méthode, donc ça suffit pas.
Puis on l'a dit d'ailleurs.
D'une part, et d'autre part, rémunérer un informateur impliqué dans un trafic de stupéfiants, vous le rémunérez, vous lui donnez 5 000 ou 10 000 euros alors que les gains sont 10 fois, 100 fois supérieurs, c'est pas quelque chose qui va être très efficient. Donc il faut vraiment réfléchir à comment rétribuer des informateurs, comment avoir des relations très poussées avec eux. Aux États-Unis, vous avez des services comme la DEA qui sont fameux dans ce domaine-là, qui travaillent sur des échelles sans commune mesure.
Alors eux, ils travaillent même avec eux, ils infiltrent, il y a des indicateurs, il y a aussi des repentis, ils arrivent à beaucoup travailler avec la DEA, avec des repentis, que ce soit pour les cartels en Colombie ou au Mexique. Donc voilà. Il y a l'emploi de cette méthode-là.
En France, pas du tout. On en est très très loin. On en est très très loin. Et dans l'affaire François Thiéry, c'est la tentative qu'a essayé de faire ce commissaire, c'est de vraiment intégrer un de ses informateurs dans les réseaux. C'était vraiment devenu un personnage important de tout un système, une doctrine policière qu'on avait. Il avait donné un nom de code. C'était les opérations Myrmidon. Il y avait un langage un peu guerrier dans tout ça et qui consistait à avoir des informations en permanence pour démanteler des réseaux. Mais ça suppose un retour pour les informateurs. Mais le système français, pour l'instant, est très hypocrite dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on ne veut pas donner de l'argent à des trafiquants, par principe, mais du coup, on se coupe des relations avec ces informateurs.
Ça veut dire qu'à travers ces deux affaires, Michel Néret et François Thiéry, on n'a pas tiré les leçons du problème?
Moi, je pense. Effectivement, on n'a pas voulu remettre en cause, remettre à plat la lutte anti-drogue en France. On est vraiment très loin du compte. Il faut quand même se dire que le cannabis, par exemple, c'est au minimum 450 tonnes par an importées en France. C'est industriel. Ouais. On en saisit peut-être 10%. Les saisies sont dérisoires. Donc, face à ça, il faut vraiment se donner les moyens, réfléchir à un système qui soit efficace. Là, c'est de l'artisanat, c'est vraiment du bricolage. Et quand des policiers s'engagent sur ce terrain-là et qu'il leur arrive des ennuis, ça fait scandale, ça fait les gros titres, mais on n'avance pas beaucoup plus, finalement. On s'en rend compte. Aujourd'hui, alors, il y a d'ailleurs une anecdote que je raconte dans la guerre des stupes. Michel Néret tombe le 30 septembre 2011 et l'informateur du commissaire Thiéry va être inscrit 10 jours plus tard. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a une affaire fait scandale et une autre affaire s'enclenche en réalité. Et 4 ans après, on se retrouve exactement dans la même situation.
On disait tout à l'heure, ce sera ma dernière question, dans le récit que Lyon était l'une des villes des braquages. Pas la ville des braquages, mais il y avait beaucoup de braquages. Et que les délinquants on a eu ensuite, au fil des années, beaucoup plus de fils à retordre avec les trafiquants de drogue. C'est pareil pour la police française aujourd'hui. C'est le terrain d'investigation numéro 1, la drogue.
Ah ben moi je pense que c'est vraiment le grand défi de la police française, hein, dans les quantités que je vous ai indiquées, et puis aussi dans la criminalité que ce trafic draine. C'est-à-dire que derrière ce trafic, c'est beaucoup de violence, c'est des séquestrations, des règlements de comptes, hein, on le voit à Marseille, et c'est aussi des financements, hein, un enjeu financier très important, avec quelques ramifications en direction du terrorisme.
Richard Chitlis, c'était le mot de la fin. Merci infiniment pour tous vos éclairages. Je rappelle que vous étiez en direct, bien sûr, comme d'habitude, en duplex de la ville de Lyon, évidemment. Au revoir, merci.
Au revoir, merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Néret, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Livre, référence et vos commentaires, bien sûr. En tout cas, si le cœur vous en dit, merci à Arnaud Caillé qui était à la technique aujourd'hui. Vous écoutez France Inter.